Alors, le chapitre 34, qu'on va commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem, est une suite directe du thème du chapitre 33. Évidemment, c'est le chapitre qui vient après. Pourquoi ? En fait, le thème qui nous dérange déjà depuis plusieurs chapitres, c'est comment arriver à une vraie simra. Alors, dans le chapitre 33, on a expliqué que pour arriver à une vraie simra, je dois arriver à la conclusion que tout ce qui m'arrive vient de Akadosh Baruch Hu. On a expliqué longuement, dans beaucoup de détails, comment tout ce qui me vient d'Akadosh Baruch Hu, et comment ça sert à rien de m'enfuir de problèmes, puisqu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a une joie énorme lorsqu'il voit que je surmonte un problème. Donc, non seulement que le problème ne doit pas me déprimer, au contraire, je dois être quelque part content, puisque je me dis que, en surmontant le problème, je procure une simra extraordinaire à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si vous avez deux enfants, et que vous avez un enfant qui est premier de la classe, et un autre enfant qui est dernier, mais qui arrive une fois à surmonter cet obstacle et être au milieu de la classe, il vous fera plus de plaisir que le premier de la classe.
Si tu as des derniers de la classe, tu sais pas alors.
Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant.
De l'eau.
Ils n'ont pas amené.
Ah, d'accord.
J'ai pas amené.
Tiens, il y en a une double.
C'est pas assez bon, ouais. Voilà. Alors, donc en tout cas, ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, c'est, avec tout ce qu'on a expliqué, le but, c'est que cette émouna ne soit pas seulement superficielle, mais qu'au contraire, cette émouna, elle soit intégrée en nous à 100%. Je vais illustrer ça par un exemple très connu. La Gemara nous dit, qu'une personne, le voleur, vous connaissez l'exemple du voleur?
Ah, il dit merci mon Dieu, aide-moi.
Non, avant, merci.
L'arhamo, dès que tu m'aides, là,
le voleur, avant de commettre son larcin,
mon Dieu, aidez-moi.
Il va s'adresser à Dieu et il va dire, je t'en prie, aide-moi. Alors, comment tu peux expliquer ça, Michael? Il croit ou croit pas en Dieu?
Bien sûr, il a.
C'est-à-dire qu'il va aller faire le casse du siècle, mais avant de le faire, il dit, Dieu, je t'en prie, aide-moi. Est-ce que c'est un réflexe machinal, mais qu'en vérité il n'est pas dedans? Ou bien est-ce que vraiment à ce moment-là il croit en Dieu?
On a dit que c'était inné.
Ah, d'accord. Alors dans ce cas-là, pourquoi il vole?
Il vole parce qu'on a dit que c'était caché, le fait de présence de Dieu était caché.
Alors dans ce cas-là, pourquoi il désire l'aider? Si Dieu il est caché.
Parce qu'il a comment ça s'appelle, on a dit qu'il a la neshama, elle
est de série.
J'ai compris.
Elle brille, elle lui fait des.
Mais la foi qu'il a à ce moment-là, c'est une foi qui est vraie ou une foi qui est fausse?
Vous
entendez, j'ai qui la question?
Non,
je répète la question. Oui. Imaginez, et c'est un vrai exemple, un voleur.
Oui.
Avant de voler,
oui.
Il lève les mains vers Dieu, oui. Et il dit, Dieu, je t'en prie, aide-moi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Si ça marche, je fais comme lui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a une chapelle en Calabre où tous les gangsters qui font des trucs abominables,
hein,
sur la prostitution, le racket,
très parfumé.
Ils vont prier
dans la. Alors comment c'est possible? Voilà, voilà le deal. Alors comment c'est possible? Alors le chaim, Jackie.
Il fait froid dehors, il fait.
Il fait froid, il fait 18.
Je reprends. Donc. Non. Quoi?
C'est bon, hein?
C'est une liqueur.
Ouais, c'est une liqueur.
Une liqueur de quoi?
C'est une vodka.
Une vodka
goûte
parfumée.
Là, fais pas comme ma femme, avant de goûter, goûte!
Ah voilà, c'est chaud.
Ah. Alors,
ah bon.
Donc, pour reprendre. Comment c'est possible?
Elle aime pas.
Non, avant de faire, tu dis, goûte.
Comment c'est possible que cette personne-là, il va demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider, alors que...
C'est une mauvaise action.
C'est une mauvaise action. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il croit ou croit pas? La réponse de la Chassidoute est qu'en vérité, c'est une croyance, comme tu as dit, Michael. Sauf que, on a deux types de croyances. Toutes les croyances sont profondes. Mais on a une croyance qui s'exprime concrètement, et on a une croyance qui n'arrive pas à s'exprimer concrètement. Quelle est la différence entre le grand rabbin et le grand voleur? C'est que le grand rabbin arrive à exprimer sa émouna. Il a l'émouna, mais il arrive à l'exprimer. Le grand voleur, il a une émouna, la preuve c'est qu'il demande de l'aider, mais il n'arrive pas à traduire cette émouna concrètement, et c'est pour ça qu'il vole. Ce que je veux montrer par ici, c'est qu'on peut être croyant et voleur en même temps, et c'est pas incompatible.
Ou ils s'en servent pas à bonne escient.
Pourquoi? Parce que, je dis pas que c'est bien de voler, ça veut dire que c'est pas incompatible d'être en même temps croyant et en même temps gangster. Parce que Une personne peut être croyant, mais sa émouna peut être superficielle. Elle peut ne pas se traduire dans les faits. Donc, vient l'effort qu'on va expliquer dans ce chapitre aujourd'hui, que la émouna ne doit pas rester seulement superficielle. Pour arriver à une vraie simcha, la émouna doit se traduire concrètement. Et ça, c'est très difficile, parce qu'au fond de nous, on est tous croyants.
Oui, mais après tout, ce monsieur qui a volé, c'est son métier.
Il
excelle là-dedans. Oui. Il va jouir avec cette...
Écoutez, c'est pas compliqué. Il va gagner de l'argent. J'ai besoin d'argent, vous en avez.
Oui, mais enfin, voilà. Tout le monde le fait pas.
Il y a peu de métiers...
Il le fait avec joie, avec son cœur.
Oui, bien sûr, avec joie.
Alors, donc, pourquoi
il prend même des risques.
Pourquoi
il monsieur, vous savez, je prends des risques pour mon métier, moi.
Emouna,
c'est même un métier à risque.
Pourquoi ça, Emouna, elle est moins valorisante que celle du haram?
Parce que la Emouna d'un juif, normalement, aurait dû l'arrêter de voler, parce que Dieu a interdit de voler.
Mais non, si c'est un ignorant, il ne peut pas savoir.
Ah ouais, d'accord.
Ce sont les contradictions, non?
C'est qui pour le cours des jeunes filles, je peux aller voir s'il te plaît, ça ne dérange pas. Voilà, c'est ici. Voilà, ils sont venus pour le cours. Non, c'est pas dit qu'ils sont venus pour le cours, mais je sais pas si le cours des jeunes filles, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui court. Bon, alors comment ça se fait qu'il vole dans ce cas-là? Si vraiment il a la Emouna, pourquoi il vole? Hein, Dan, qu'est-ce que tu en penses?
C'est son métier.
Mais je pense
il vit de ça.
Mais non, c'est pas son métier, hein? C'est pour le cours? D'accord, ok.
C'est un paradoxe.
Ah, alors toi tu dis c'est un paradoxe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu veux dire qu'en vérité cette personne-là est schizophrène.
Oui, un peu
comme beaucoup, comme tout le monde.
Ça veut dire que d'un côté il a un côté croyant, et d'un autre côté il a un côté gangster. D'accord. Mais comment tu peux expliquer qu'avant de voler, il parle à Dieu, il dit Dieu aide-moi? À ce moment-là, est-ce qu'il est sincère?
Bien sûr, il est sincère. Naturellement qu'il est sincère quand il dit, avant de voler, il s'adresse à Dieu, Dieu aide-moi.
Mais si tu dis à Dieu, Dieu aide-moi, ça veut dire que tu pars de la base que qui sait qui va t'aider, c'est Dieu. Mais ce même Dieu, il t'a dit de ne pas voler. Alors comment tu veux quitter alors que tu veux le contraire de ce qu'il t'a demandé?
Mais est-ce que tu sais que tu ne dois pas voler?
Hein?
Est-ce que tu en
quoi?
Es conscient?
Mais... lui, il fait fi de voler. Il zappe le côté volé, il garde le côté...
Mais non.
Parce que le côté
non.
Volé
encore une fois, monsieur Benita. Mon problème est le suivant, c'est un problème très simple. Si tu me dis qu'il est croyant, et que comme il est croyant, il sait que la seule personne qui peut l'aider, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui demande de l'aider à commettre son larcin.
Ouais.
Ce même Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu ne voleras pas. Alors comment tu vas demander à Dieu de t'aider, alors tu fais le contraire de ce qu'il te demande.
Sans aller jusqu'au...
Vous comprenez le problème? Imaginez par exemple, vous avez un docteur. Il vous a dit, monsieur Benito, ne mangez pas ça, c'est du poison. D'accord? Ne mangez pas les chips, c'est du poison. Vous allez voir ce docteur, et vous allez lui dire, je t'en prie, aide-moi à acheter les chips. Il est fou celui-là, quoi. Mais je t'ai dit que c'est du poison. Va y avoir quelqu'un d'autre, va pas voir moi. Comment c'est possible? En vérité, c'est la clé de la réponse est ici. C'est que, quand il va demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, c'est parce qu'à ce moment-là, sa émouna est en lui, et il sait que celui qui l'aide, c'est Akadosh Baruch Hu, mais sa émouna ne se traduit pas concrètement. Sa émouna reste superficielle. Et comme sa émouna reste superficielle, quand les choses sont superficielles, on n'est pas dérangé par les incohérences. C'est une incohérence, ça. C'est une incohérence. Comment tu peux demander à celui qui te l'interdit de t'aider à le faire, l'interdit? Mais quand la émouna est superficielle, ça ne me dérange pas, l'incohérence ne me dérange pas. Et ça, c'est le plus difficile dans notre vie. Quand on est enfant,
il zappe le truc de...
C'est pas qu'il zappe, c'est qu'il est pas dérangé par l'incohérence. Quand on est enfant, vous savez, chez les enfants sont très dérangés par les incohérences.
Ouais.
Mais avec le temps, on s'habitue à fermer les yeux.
Et
on s'habitue à vivre avec des incohérences. Malheureusement. Avec le temps, on perd ce côté émette, véridique, qu'il y a chez les enfants. Et on devient, ça nous dérange pas. C'est-à-dire, ça ne dérange pas de faire une chose et son contraire en même temps. Et là, il vient, il te dit, tu veux arriver à une vraie simcha, il faut te travailler pour redevenir comme un enfant. Il faut te travailler pour être dérangé par les incohérences. Pour ne pas laisser passer les incohérences. Et tu vas voir que quand tu laisses pas passer les incohérences, automatiquement, ta simple émouna va te ramener sur le droit chemin. Parce que tu vas dire, mais attends, comment je peux prier à Dieu et juste après faire le contraire de ce qu'il me demande? Encore pire, lui demander de m'aider dans une entreprise qui est contraire à sa volonté. Mais comment c'est possible? Par exemple, vous avez des gens, ils vont faire les 400 quoi, après ils vont venir, ils vont croire, ils vont faire un don, ils vont faire la tzedaka, etc., ils vont tout acheter. Mais qu'est-ce que tu fais un don à qui? Tu fais un don à Dieu. Mais c'est même Dieu qui a dit qu'on n'a pas le droit.
Mais cette attitude-là,
c'est très fréquent.
Cette attitude-là, on la fait tous les jours et tout le monde le
Exactement.
Fait.
C'est ce qu'a dit Dan. On le fait tous, à notre niveau. On le fait tous, on a tous des incohérences. Non, mais tu as raison, vous avez raison, à 100%. Nous avons tous des incohérences. C'est clair.
Tu as pris l'exemple du vol, tu aurais pu prendre un exemple beaucoup plus anodin, ça aurait été pareil.
C'est vrai. Bonsoir. On aurait pu prendre.
Le vol pas parce qu'il est caricatural. Mais tu peux, on peut parler de n'importe quoi.
Ah, n'importe quel exemple.
Je vais parler de l'alcool. Simple. Tu bois, si tu bois trop, tu
Je vais donner un exemple très simple. Je vais donner un exemple très simple. D'accord. Une fois, les Chaim. Une fois, je suis parti. Une fois, j'étais le jour de Rosh Hashanah. Je suis parti sonner le chauffard chez des gens. Et après, il restait du temps que je suis parti dans les magasins. Les magasins, bon, peu importe le. Dans l'avenue d'Italie, il y a des magasins. Et il y a des magasins, malheureusement, juifs, qui sont ouverts pendant Rosh Hashanah. Donc, je suis parti leur sonner le chauffard. Et quand j'arrive, je vois un monsieur qui est en pleine discussion. Juif. Bon, donc, du coup, il arrive, il abrège la discussion. Et je l'entends, il dit oui, je t'appellerai dans une semaine avec l'aide de Dieu. Waouh!
Ah, parce qu'il vous a vu, c'est
non, 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 ça veut dire qu'il est en plein Rosh Hashanah, au téléphone, et il dit avec l'aide de Dieu.
Bah,
on sait, il y a des.
Mais,
hein.
Mais
sûr qu'il sait que c'est Rosh Hashanah.
C'est un type de langage.
Non, c'est pas un type de langage. Non, 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 c'est pas un type de langage. Mais il lui a dit comme ça. Alors il lui a dit, je t'appelle la semaine prochaine. Alors l'autre, il lui a dit, bon, on s'appelle samedi alors. Il dit, non. Samedi prochain, c'est le jour du grand pardon. Là, c'était un jour qui pour c'était Shabbat. Ça, c'est le grand pardon. Ça en touche pas. Ça en touche pas. Il a dit. Ça en touche pas.
Mais c'est
pas
ce jour-là qui va être pareil.
Là, ça vient d'Italie ici, à côté, sous notre nez. Hein.
Il a pas la notion de.
Ça veut dire que, et pourtant, le jour même, il peut être au téléphone à faire une belle affaire et dire Dieu, je t'en prie, aide-moi. Alors qu'il sait que c'est Rosh Hashanah.
Mais il a pas la conscience.
Voilà, chacun a son curseur, exactement. Mais on est tous concernés par ça. On est tous concernés par ça, tous, sans exception.
C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible que chacun ait son curseur en matière de présence d'Akadosh Baruch
Hu ? Non, mais ça veut dire qu'on a tous des incohérences. Ça veut dire, tu fais quelque chose, tu sais très bien que c'est pas bien, et tu demandes à Dieu de t'aider pour autant. Et tu sais que c'est pas bien. Parce que c'est comme ça. Parce que la Emouna peut être superficielle. La Emouna peut être superficielle. Alors on raconte comme ça, pour illustrer ça. On raconte que
le Mashpia... Une vraie Emouna, ce type de problème ne se pose même pas.
Non, monsieur Benita, excusez-moi. Il n'y a pas de vraie et de fausse Emouna. Excusez-moi de vous reprendre.
Celle qui est... Non, mais celle qui n'est pas artificielle.
Non, je n'ai même pas dit artificielle. Superficielle.
Superficielle.
Il n'y a pas de vraie et de fausse Emouna. Toutes les Emounas sont vraies. Et comme a dit Michael, à juste titre, il a dit, ce juif, avant de voler, qui dit Dieu aide-moi, qu'est-ce que tu as dit, Michael ? Tu as dit, c'est vrai ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ça veut dire que vraiment, il le pense 100%. Dieu aide-moi.
Oui, mais c'est
seulement vrai. Quoi ? Sa émouna est superficielle. Comme sa émouna est superficielle, d'accord ? C'est pour ça qu'il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ?
Tu vois pas ?
Hein ? C'est Chaim.
Alors, prends après, je lui envoie.
Tu vois ? Hein ? Non, mais nous, le masqué, tu vois, on est superficiel. Michael, toi l'alcool chez toi il est pas superficiel.
Non, c'est pas ça. Je suis maintenant devenu à chaque fois que je bois une goutte d'alcool.
Allez, vas-y.
Ça me fait.
C'est avec un médicament. Ça te dérange ? Ça te démange ?
Ouais. Ça fait un mois et demi que c'est parti. J'ai arrêté les médicaments.
Bon.
C'est pas un médicament, c'est pas mal.
Non, mais c'est une fois des réactions qui prennent du temps à partir.
Tu dis ça, mais la bouteille, elle est finie. Hein.
Non, ouais, c'est l'habitude. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour illustrer ça. Après, on va faire dans le texte. Le Rav Mendel Puterfass, qui était le Mashpia, donc le responsable spirituel, de la yeshiva de Kfar Chabad. Bon, à la vache, elle est déjà partout de ce monde. Rav Mendel Puterfass, il raconte que lorsqu'il était en Ukraine, avant d'arriver en Israël, etc., lorsqu'il était il a fait beaucoup, il a fait le goulag et tout, il est passé partout. Hein. Et il raconte que lorsqu'il était encore en Ukraine, il était dans une ville qui s'appelait Kherson. C'est une ville. Et il raconte qu'il s'occupait, à ce moment-là, d'un vieux chassid qui s'appelait Rav Eliezer Techersky. C'était son nom. D'accord ? Rav Eliezer, c'était un chassid qui était déjà vieux, et bon, il s'occupait de lui, et il parlait avec lui. Et il raconte que ce Rav Eliezer Teshersky, c'était un Rav qui était très malade. Il a dit, en rigolant, Rav Mendel, il disait, on sait qu'il y a 248 membres, ben lui, il devait avoir 248 maladies. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un membre qui n'était pas malade, quoi. C'était un Rav qui était, Dieu préserve, il était malade partout. Chaque membre avait un problème. Chaque membre, il était malade. Et Rav Mendel, il essayait de faire ce qu'il pouvait pour essayer d'agrémenter un petit peu la vie de ce chassid qui était en fin de vie, d'accord, pour essayer de l'aider un petit peu. Et il raconte que pendant les deux dernières années de la vie de Rav Mendel, de la vie de Rav, de ce Rav et de ce Rav Eliezer, il dit là, je ne l'ai pas quitté. Tous les jours, tous les matins, midi et soir, j'étais avec lui, je l'aidais, etc. Et il raconte, il dit que une fois les chassidim, ils ont vu que ce Rav était vraiment malade, ils ont dit bon, on va lui payer une cure. On va lui payer une cure, ça va lui faire du bien parce qu'il le voyait tellement malade comme ça. Alors ils ont dit on va lui payer une cure. Donc ils ont ramassé de l'argent. Ils ont payé une cure en Russie. Il y a des cures en Russie. Très bonnes cures en Russie. Donc ils ont payé une cure. Mais il est revenu exactement comme il est parti. Même chose. Aussi malade qu'il était. Alors, bon, le docteur, il ne sait plus quoi faire. Le docteur, il a dit, bon, ben écoutez ce qu'on va faire maintenant. Vous allez faire un régime draconien. Et tous les jours, à part un morceau de challah et un demi-verre de lait, vous n'avez rien le droit de manger. Parce qu'il s'est peut-être que son corps fait une allergie à certains aliments. Il était très fragile, apparemment. Bon, et comme ça, donc pendant quelques jours comme ça, il y avait ce régime. Tous les jours, un morceau de challah et du lait. Il était malade partout. Alors une fois, il a dit à Rav Mendel, il a dit, j'aimerais aller à la synagogue. Bon, alors Rav Mendel, il l'amène à la synagogue. Très compliqué, hein. Bon, il n'y a pas de chaise roulante, donc il l'amène avec la canne. Et... Vous savez comment c'est quand on amène des personnes âgées comme ça? Tous les 10 mètres, il faut s'arrêter. Il faut respirer, il faut prendre l'inspiration, etc. Et à chaque fois, il risque de tomber, on le rattrape. Bon, il essaie de l'aider comme il peut. Alors, pendant la route, Rav Mendel, il voit que le Rav Eliezer est très, très, très fatigué. Alors bon, il lui dit, Rav Eliezer, comment allez-vous? Tu sais comment vous sentez-vous? Il essaie de lui parler. Alors, Rav Eliezer, il lui répond, il lui dit, j'aimerais bien que spirituellement, ça aille comme ça va matériellement. Comme ça, il lui répond. Alors, Rav Mendel lui dit, mais Rav Eliezer, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous demandez que spirituellement, vous aimeriez que ça aille comme ça aille matériellement, mais matériellement, regardez pas quatre, ça va pas. Il dit, matériellement, vous arrivez même pas à marcher, vous mangez un morceau de trala, vous buvez un verre de lait, c'est ça? Et c'est ça ce que, spirituellement, vous souhaitez tellement? Alors, il a dit, mais non. Alors, il a dit comme ça, avec beaucoup d'amour. Il a dit, mais Mendele. Bon, il parlait aux jeunes, Rav Mendele. Il lui a dit, tu sais, je t'expliquais. Il dit, c'est vrai que matériellement, j'ai pas grand chose. Matériellement, qu'est-ce que je mange? Matériellement, je mange un bout de challah et un peu de lait. D'accord? Mais au moins, ce peu, il rentre en moi. Je suis sûr qu'au moins, ce peu, il rentre en moi. Je le digère, je l'ingère et il fait partie de moi. Et la preuve, c'est que j'en vis. Je suis pas mort. Ça veut dire que je l'ingère. Ce que je me souhaite, c'est que j'aimerais bien que spirituellement, j'aille aussi bien que matériellement, dans le sens que ce que j'étudie, je l'ingère autant que le matériel que je prends, je l'ingère. Ah, c'est la réponse qu'il a donnée. Ça, Rav Mendel a dit, quand j'ai entendu ça, il a dit, tu t'imagines, un chassid qui est là, vraiment HS, d'accord? Et à quoi il pense? Il se dit, la nourriture que je mange, je l'ingère. J'aimerais que spirituellement aussi, ce que je mange, je l'ingère. Ça, c'est exactement la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, elle peut être superficielle. Ça veut dire que ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre. Tu l'ingères pas, c'est pas partie de toi. Une Emouna qui est intégrée et qui devient présente et profonde, c'est une Emouna comme la nourriture. Ça veut dire qu'elle rentre en toi. Tu peux pas la, c'est pas tu dis, c'est rentré, mais bon, c'est pas là. Elle rentre en toi et ça fait partie de ton corps. C'est moi, c'est mon sang. C'est mon sang, c'est ma chair, c'est mes os. Ça, c'est ce que dit le chassid Rav Eliezer. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui maintenant. Et pour référence, on va rentrer dans le texte maintenant. Pour référence, on va prendre la plus grande référence qu'on ait en Emouna, la plus belle et plus grande référence qu'on ait en Emouna, c'est les patriarches. Les patriarches ont une Emouna exemplaire. Pourquoi? Il faut qu'on explique.
Eux, ils ont des chances.
Eux, ils sont
vernis, eux. Eux, ils ont vu Akadosh Baruch
Hu. Oui, mais...
Quand tu vois Akadosh Baruch Hu, tu peux pas...
D'accord,
c'est mais... C'est comme si tu voyais le soleil dans
la question est, c'est quoi une Emouna profonde? Quelle est la différence entre une Emouna superficielle et une Emouna profonde? Et vous allez voir que ce que je vais dire aujourd'hui, on va parler des patriarches, mais c'est applicable pour chacun de nous. Applicable pour chacun de nous, pour essayer justement d'essayer de faire un effort d'arrêter ces incohérences. On vit avec beaucoup d'incohérences. Ça veut dire que on peut par exemple ne pas être dérangé, à faire un sourire à quelqu'un alors que tu ne supportes pas. Dire à quelqu'un je t'aime alors que tu le détestes. D'accord ? Non, mais c'est, on a plein d'incohérences dans notre vie. Après, comme tu as dit, Michael, le curseur, c'est, on le met où on veut le curseur. C'est chacun de lui, mais le curseur où il veut. Et il te dit qu'il n'y a rien de pire que ça pour la Emouna. Quand t'es faux comme ça, quand ça sonne creux, quand c'est faux, c'est horrible pour la Emouna. C'est pas une Emouna, c'est une Emouna qui s'exprime pas, et donc du coup on fait n'importe quoi. Pour arriver à une vraie Simra, il faut une Emouna qui soit extériorisée et qui soit vraie. Et maintenant. Donc comme on a dit, le référentiel qu'on a, c'est les patriarches. Vein Emouna Hazot, chapitre 34. Vein Emouna Hazot. Il est connu ce que les Rachamim disent. Chez Ahavot, N à Merkava. Que les patriarches sont à Merkava le char. Alors je vais poser une question à Jackie, puisque Jackie il est dans les voitures. Hein? Il y a aussi Serge qui est dans les voitures, mais dans une autre dimension.
Il fut.
Ah, d'accord. Il fut un temps. Maintenant, il est dans l'architecture. Alors. C'est ça?
Non.
Il apprend un nouveau métier. C'est devenu architecte bientôt. Alors. Dans la voiture. Ok? J'ai une voiture. Je rentre dans la voiture. Bon. Donc, Jackie, c'est le moniteur, il est assis à droite. D'accord? Moi, je suis assis à gauche. Je suis là, je suis l'apprenti, je suis assis à gauche. Très bien. Je suis assis, je passe la vitesse, j'avance. Je prends le volant, je tourne à droite. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture?
À droite.
Ça dépend si c'est une Renault.
Ah, il avait des Renault, lui, alors.
Bah,
hein? Qu'est-ce qu'elle fait la voiture?
Elle va à droite.
D'accord.
Bah, oui, c'est évident.
Je tourne le volant à gauche, elle va où la voiture?
Elle va à gauche.
Oui. Va à gauche. Pourquoi? Attends, attention, réfléchis. Pourquoi?
Parce
que pourquoi quand on tourne. Pourquoi quand je tourne le volant à droite, la voiture ne tourne pas à gauche?
Parce qu'elle n'a pas de marche arrière à ce moment-là.
Hein?
Ah.
Parce qu'elle n'a pas de quoi?
Non, c'est voulu, genre,
d'accord. Maintenant, imaginez une voiture comme beaucoup de voitures aujourd'hui. Bah, c'est certaines voitures sont comme ça. Qui n'a pas du tout de direction manuelle. Ça veut dire que normalement la direction qu'on a aujourd'hui, elle est manuelle, mais assistée avec le moteur. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a des voitures de plus en plus électriques, comme ça, qui sont carrément, c'est-à-dire que tout est électrique. C'est-à-dire que quand tu tournes avec le volant, le volant n'a rien à voir avec la direction. D'accord?
Direction électronique.
Il n'y a rien à voir. Ça veut dire que c'est pas que tu tournes une poulie, que tu tournes des rondelles, etc. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. D'accord?
Comment ça marche?
Ça veut dire que quand tu tournes le volant, c'est comme si t'appuies sur un bouton. Quand tu tournes le volant, ça envoie un signal à un autre moteur qui lui dit tourne à droite. Et là, ça envoie un moteur tourne à gauche.
Bon.
Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Ben là, ce qui peut se passer, c'est que je tourne le volant à droite et la voiture, elle tourne
à gauche.
Comment c'est possible?
Donc tu paramètres le.
Parce que c'est pas mécanique. On est d'accord? Voilà. Bonsoir. Parce que c'est pas mécanique. Ce qui est mécanique.
Il n'y a pas de possibilité
que. Ça veut dire. Il n'y a pas de possibilité que ça marche pas. Ce qui est mécanique, tu tournes, ça tourne à droite. Tu tournes à gauche, ça tourne à gauche. Mais dès que tu dois faire appel à une intelligence, à une capacité de décision, à un temps de décision, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, ce qui peut se passer, c'est presque, ça, normalement, ça devrait pas arriver. Mais ce qui peut se passer, c'est que je tourne à droite et ça tourne à gauche. J'obtiens l'effet inverse. Ou ça marche pas. Alors, ce qu'on explique maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça maintenant? Parce que le Zohar, et le Midrash aussi. Pour expliquer et pour illustrer quelle est la Emouna des patriarches, le Zohar dit que les patriarches, ils avaient une Emouna comme un char.
C'est pour ça qu'il dit Merkaba.
Ah oui. C'est quoi le char? Dans le char, s'il tourne à droite, il tourne à droite. Maintenant, est-ce que le char a un temps de réflexion dans lequel il a un microprocesseur qui doit réfléchir? Il a cliqué à droite, est-ce que je vais tourner à droite ou tourner à gauche? Il n'y a pas. C'est manuel, c'est mécanique. C'est automatique. Il n'y a même pas de temps de réflexion, c'est automatique. Les patriarches, ils avaient une telle émouna que leur corps faisait automatiquement ce que Dieu voulait. C'est-à-dire, c'est pas que il dit Dieu, il veut que je vole pas. Maintenant, moi, je vais réfléchir dans mon microprocesseur. Est-ce que je vole ou je vole pas? Non.
Il était téléguidé.
Dieu, il a dit qu'on vole pas. Dieu, il vire à droite, je vire à droite. Dieu, il vire à gauche, je vire à gauche.
Comment on peut être nous être comparés?
Ah, d'accord. Très bonne question.
Parce qu'eux, ils ont eu une chance que nous, on n'aura pas.
Non.
Parce qu'ils ont vu à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, ils l'ont entendu.
On peut le devenir sur certains aspects de notre vie. Faire en sorte que tellement j'ai intégré la mitzvah que ça devient une sorte d'automatisme en moi. C'est possible. Il y a des choses.
Le tzaddik.
C'est pas que le tzaddik. Il y a des mitzvot qu'on peut intégrer au point que même si tu réveilles la personne à 4 heures du matin, il le fait par réflexe. Automatiquement.
Mais celui qui
on peut avoir des comme ça.
On peut pas l'assimiler à un automate.
On peut, pardon.
Celui qui est Merkabala.
Oui.
On peut l'assimiler à un automate.
Non, c'est pas au contraire.
On a dit le Merkaba. Tu lui dis va à gauche, il va à gauche, tu lui dis va à droite, tada, il fait aucun effort, il fait les...
Bien sûr, mais c'est un très grand effort parce qu'il a une volonté propre, il aurait pu décider de pas écouter. Mais tellement il s'est annihilé devant Dieu, que, il fait en sorte de ne plus avoir de volonté propre.
Il est asservi. En
fait. Complètement. C'est même pas asservi. Asservi, c'est même pas long, excuse-moi de te reprendre. Parce que l'esclave, quand son maître lui donne un ordre, c'est un exemple du Zohar, ça. Quand le maître donne un ordre au serviteur, l'esclave va écouter, mais il y a un laps de temps. C'est pas instantané. Il y a un laps de temps dans lequel l'esclave se dit, bon, il m'a dit, mais moi j'ai pas envie de le faire. Mais au final, il va le faire, et tout de suite il va le faire parce qu'il sait qu'il est pas maître à bord. Mais ça veut dire qu'il a une volonté propre. Il peut ne pas vouloir le faire. Et pourtant, il le fait, hein. Sans réchigner, il le fait. Mais là, c'est beaucoup plus fort que ça. Quand on dit que les avots sont le Merkava, c'est encore plus haut que le niveau de Eved. Eved, c'est un esclave. C'est beaucoup plus haut, là. C'est qu'ils sont tellement annihilés devant Akadosh Baruch Hu, qu'ils deviennent comme le char d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dieu, il vire à droite, il vire à droite.
Leur volonté est celle de Dieu.
Exactement. Sans aucun laps de temps, c'est mécanique, manuel. Ah, avot, et nana Merkava. Bon, encore une fois, j'ai dit l'exemple du soir, marche. Pour les chars qui sont manuels, aujourd'hui il y a tellement de microprocesseurs partout que ça devient plus compliqué. Vous savez ça, ils ont fait un test comme ça dans les routes en Californie. Parce qu'il y a des voitures comme ça maintenant qui sont, comme j'ai dit, le volant n'est plus lié manuellement aux roues. En fait, ils ont fait un essai, c'est qu'il y a eu un hacker comme ça qui a prouvé qu'il pouvait pirater une voiture à une distance de quelques mètres. Parce que tout est connecté en wifi là-bas, même les voitures. Et la personne, il tourne le volant à droite, et la voiture, elle tourne à gauche.
Ah oui.
C'est fou. Oui. Et ils ont filmé, hein. Oui. Ça veut dire, tu vois le volant, il est là, il tourne le volant, et hop, l'autre avec son ordinateur dans une autre voiture, il tourne avec le volant, la voiture, elle vient à gauche. Bien sûr.
Mais c'est-à-dire c'est la conception qui n'est pas tout à fait conforme.
Non.
Normalement, le microprocesseur de ce véhicule, il doit reconnaître uniquement que soit...
Ah oui, d'accord, ça a été piraté, bien sûr. Bon, on ne va pas faire un cours d'électronique aujourd'hui. Alors, chez Kol Yamehem... donc vei nemodat zot shiavot en merkava. Les patriarches sont la merkava. J'ai donné un exemple au cours, un exemple qui n'a pas laissé indifférent l'audience. Il leur a dit que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il était directeur de la yeshiva, il avait l'habitude, tu te rappelles de l'exemple? Il avait l'habitude toutes les nuits. Pendant la nuit, de faire un tour dans les chambres. Dans l'internat de la chambre. Dans les chambres de l'internat de la yeshiva. Et il regardait quels élèves avaient la kippa sur la tête et quels élèves la kippa était tombée. Parce que des fois, la kippa, elle peut tomber pendant le sommeil. Il leur remettait la kippa sur la tête. Et pour certains élèves qu'il connaissait, etc., il le convoquait le lendemain. Il lui dit, tu sais, ta kippa, elle est tombée cette nuit. Il convoquait avec ceux qui faisaient tomber.
Il dormait, le pauvre,
exactement. Non. Il lui dit non. Il lui dit, tu dois te travailler à faire en sorte que lorsque ta kippa tombe pendant ton sommeil, on s'habitue à ça. Hein. Je peux vous dire, on s'habitue à ça. Que lorsque ta kippa tombe pendant ton sommeil, naturellement, soit ça te réveille, soit tu la remets. Ça veut dire que naturellement, t'es pas tranquille. Ça, c'est un exemple de ce que j'appelle Merkava. Ça veut dire que c'est tellement un automatisme en moi, que même quand je dors, même quand je suis ailleurs, c'est un automatisme. C'est quelque chose que... C'est une seconde nature. C'est un réflexe. C'est carrément... On parle du réflexe. C'est encore plus fort que la compréhension. C'est un réflexe. Ça, c'est le niveau des patriarches. Chez les patriarches, accomplir les Torah et les Mitzvot, c'est comme un réflexe. C'est un réflexe. Ça veut dire, par exemple, je suis là en train de mettre ma main comme ça, quelqu'un vient me donner un coup, j'ai un réflexe. Ce réflexe-là, je le calcule pas, parce que si je le calcule, c'est plus un réflexe.
C'est pas tout à fait un réflexe. Un réflexe, c'est quelque chose où c'est parfois déconnecté un peu de le...
Ça dépend. Ça dépend, oui. Ça dépend.
C'est pas naturel. Mais je pensais que là...
Non, il n'y a rien qui est naturel, c'est un travail. Abraham a grandi dans une famille idolâtre.
Arrivé jusqu'à une seconde.
Oui. Et il s'est travaillé pour lui-même. Après, ça peut devenir naturel. Chez Kol Yemehem le Olam, que toute leur vie, Loïf Siku a filoucha à Arat.
Une seule seconde.
De quoi? Ah oui, on va expliquer. Chez Kol Yemehem le Olam, Loïf Siku a filoucha à Arat, que toute leur vie, ils ne s'arrêtaient pas, ne serait-ce qu'un seul instant. Ça veut dire que, comme dit la Gemara Zakeh dans un autre endroit, même dans leur sommeil, ils ne pouvaient pas quitter Akadosh Baruch Hu. Ça, ça montre à quel point ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu. Alors, on raconte que, le rabbi raconte l'histoire suivante. Il dit que, il y avait la rabbanit Scheindel. La rabbanit Scheindel, que Dieu venge son sang, elle a été tuée par les nazis. C'était la dernière fille du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Tu sais qu'il a perdu des enfants pendant la Shoah. Bon, il a sa fille, la rabbanit Raïl Mouchkat, dont c'était aujourd'hui l'anniversaire d'ailleurs, le 25 Adar, oui, aujourd'hui même. Et malheureusement, il a sa dernière fille, elle est partie pendant la Shoah, avec son mari. Et on raconte que comme c'était la dernière fille, donc du coup, c'est comme dans les grandes familles, la dernière fille, ça veut dire ses frères et sœurs se sont déjà mariés, et donc elle est encore, donc on s'amuse avec elle, quoi, c'est la plus petite. Et donc les frères et sœurs et les oncles et les tantes, ils aimaient rigoler un peu avec elle. Alors elle était souvent chez son grand-père, le rabbi Rachab, et le rabbi Rachab, une fois, il lui a dit, Scheindel, je dois faire un effort, que tout ce que tu fais dans la semaine, tu le fais pour le Shabbat. D'accord? Ça veut dire que, le Shabbat, il a parlé du Shabbat, et tout ce que tu fais le Shabbat, tu le fais pour le Shabbat. Ça veut dire, tu dois faire un effort quand tu manges, tu vas manger l'irvot Shabbat. Tu vas boire l'irvot Shabbat. Quand tu vas te balader pendant Shabbat avec tes copines, dans ta tête, tu vas penser, pourquoi je me balade? Pas seulement parce que ça me fait plaisir, je le fais en l'honneur du Shabbat. C'est un travail pour une jeune fille. Une jeune fille, je sais pas quel âge elle avait, elle devait être très jeune. C'est un effort pour un enfant de travailler, de se rêver, de travailler, de dire, je vais aller jouer, pourquoi je joue? Lire votre Shabbat. Alors, la jeune fille, elle a dit à son grand-père, elle a dit, papy, je comprends tout. Elle a dit, il y a une question. Mais comment je fais pour, tu m'as dit, même dormir, il faut dormir lire votre Shabbat. Comment je fais? Quand je dors, je dors. Comment tu veux que je dors lire votre Shabbat? Je dors. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, si tu fais un vrai effort, tu vas voir que même quand tu vas dormir, tu vas sentir que tu vas dormir l'irvot Shabbat et que ton sommeil de Shabbat ne sera pas comme ton sommeil de la semaine. Ça d'ailleurs, on le voit. Oui. Le sommeil de Shabbat, c'est quelque chose de particulier. Le corps, il sent ça. D'accord? Le corps, il sent ça, que le sommeil du Shabbat, c'est un sommeil qui est différent. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont intégrées en nous, de façon à ce que c'est pas que je vais aller dormir pour des choses, je dis, ah, maintenant, je vais faire un sommeil spécial, le sommeil du Shabbat. T'as pas besoin de réfléchir. C'est automatique, tu sais très bien que tu vas le faire, le sommeil du Shabbat, et encore mieux, tu sais que ça va être l'irvot Shabbat. C'est encore un autre niveau. Ce que je veux montrer par ici, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire par automatisme, mais qu'on a tellement intégré qu'on les fait sans même se poser des questions. C'est devenu quelque chose de normal, il y a même plus de guerre. Par exemple, personne, par exemple, il va faire son Shabbat, il va mettre ses tefillin tous les matins. Il n'y a même plus de guerre, c'est automatique. Il se lève le matin, c'est automatique. Quelle est la première chose qu'un juif fait le matin quand il se réveille? Modéani. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Bon, au début, quand on se lève le matin, on ne pense pas forcément à ça. Mais après, tu t'habitues. C'est un réflexe. T'as même pas le temps de réfléchir. C'est automatique. Tu te réveilles, Modéani. Ça, c'est un exemple de Merkava. Merkava. Vous savez, le char israélien, il y a eu Merkava 1, Merkava 2, Merkava 3, etc. 105 maintenant, bon, alors, c'est le Merkava. Le Merkava, c'est automatique. Ça s'arrête pas. Donc, tu voulais dire, Avraham, que le Merkava, tu voulais dire quelque chose?
Oui, c'est
le Chesed pourra Tiferet. Hein?
Bah, disons qu'Avraham, il a
c'est plus moderniste, tu
pas la même.
Oui, non, ça change pas, ça. Ça change pas, c'est pas la question. La question est qu'ils sont arrivés à un niveau que servir Dieu est devenu quelque chose d'inné en eux.
Ils ne savaient pas la même façon.
Bien sûr. Leur façon de servir Dieu est devenue innée en eux. C'est un grand niveau, ça. C'est un niveau extraordinaire.
C'est devenu un automatisme.
On peut le devenir. On peut le devenir.
Alors, d'accord, on peut. Comment on va faire?
On va expliquer. On peut le devenir.
Alors, puisque ça devient un automatisme, finalement.
Est-ce que?
Ça devient un automatisme.
Non, c'est pas un automatisme.
Ah oui, Modéani, les grands.
Non, mais c'est pas grave.
De Monsieur Benita, j'ai une question à vous poser.
Tu peux considérer ça comme un
automatisme. Imaginez un nourrisson lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Même, c'est quoi, il est sorti du ventre de sa mère. D'accord? Il a soif. Il a jamais bu encore. Ok? C'est pas un réflexe pour lui de boire, parce qu'il sait pas ce que c'est boire. D'habitude, il mange. Non, mais justement. D'habitude, il mange. Il mangeait par le nombril. Là, maintenant, il sait pas. Il ne connaît pas. Donc il faut lui faire goûter une première fois. Donc quand il n'a pas goûté une première fois, même s'il a un verre à côté de lui, il ne sait pas ce que c'est le verre, ça ne lui parle pas, il n'y a pas de réflexe. Mais après cet enfant, il va apprendre ce que c'est l'eau, et automatiquement il va savoir que quand j'ai soif, il faut boire de l'eau. Maintenant, monsieur Benita, vous qui êtes un enfant qui a grandi, et vous êtes un jour par exemple, vous rentrez à la maison, vous avez très très soif, vous avez fait un footing, vous avez très très soif, vous rentrez, il y a une bouteille d'eau qui est posée à table. Qu'est-ce que vous faites?
Je m'en sers.
Vous vous servez. Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir, de dire, attends, j'ai soif, ah, il y a de l'eau. Ah, ben s'il y a de l'eau, ça tombe bien. Là, de l'eau, c'est bien, ça va calmer ma soif. Non, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est tellement inné en moi que j'ai pas besoin de réfléchir. C'est automatique. Je vous donne un autre exemple. C'est la même chose quand on a Baruch HaShem, quand on s'habitue à faire les berachot. J'ai soif. Par automatisme, je vais faire Baruch HaShem Elokeinu Shekol Mitvaro. J'ai même pas réfléchi que je dois, enfin, je devrais réfléchir normalement. Ça devient un automatisme. Quand ça devient un automatisme, ça c'est bien. Ça veut dire que j'ai intégré la chose à 100%. C'est un bon automatisme. Vous comprenez?
C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit que finalement, toutes ces trucs-là qu'on fait là, hein,
non.
Ça devient de l'automatisme.
C'est pas l'automatisme.
Pour arriver à ce niveau-là.
J'en fais quelque chose d'inné. C'est un niveau.
Quand on arrive à la Merkaba, donc c'est de l'automatisme.
Non, c'est pas l'automatisme. C'est pas péjoratif, ça. C'est... Non, c'est un bon automatisme.
Oui, mais Mendy n'a pas l'air d'accepter ce terme-là.
Non, parce que c'est la notion d'automatisme qui dérange. Quand on dit automatisme en français,
avec la kavana.
Automatisme en français, ça veut dire que c'est quelque chose que je fais sans kavana. Ça me dérange.
Bah oui, quand je bois j'arrive du dehors, j'ai soif et je vois une bouteille d'eau et je bois. Eh ben c'est de l'automatisme aussi, c'est pareil. Hein.
On va dire parce que voilà. Ouais. Automatisme, d'accord. Ça pourrait être le synonyme de conditionnement, ouais. Réflexe, ouais. Accoutumance, ouais,
voilà.
Habitude. Ouais, c'est pas bon ça.
Ah c'est pas le dans le sens de Merkava.
Même stéréotypie, psychologie ça. Bon. Alors, encroûtement, manie, marotte.
Marotte, c'est joli.
Bon, on continue. Pli, réflexe. Allez, on continue, on reprend. En tout cas, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est devenu inné en moi. J'en fais quelque chose d'inné. Alors, ça, c'était les patriarches. La grandeur des patriarches, c'est qu'ils étaient comme ça sur toute la ligne. Sur toute la ligne. On raconte qu'une fois, il y a un chassid qui... Il était une fois assis avec plusieurs personnes autour d'une table, et à un moment, ses oreilles ont cessé de fonctionner. Il n'entendait plus rien. Ça a duré comme ça un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, son ouïe est revenue comme si de rien n'était. Il est parti chez le docteur en vague, écoutez monsieur, vos oreilles sont parfaites, il n'y a rien, pas de problème. Alors il est parti voir son rabbi, parce qu'il a compris que c'est un problème spirituel, quand le docteur dit qu'il n'y a rien, donc c'est un problème spirituel. Il est parti voir son rabbi, Rabbi Rachab, donc on l'a cité tout à l'heure, le Rabbi Rachab, et il a posé la question. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Comme tu fais attention, depuis de nombreuses années, à ne pas écouter du Lashon Hara, tellement tu fais attention à ne pas écouter du Lashon Hara, que tes oreilles, naturellement, elles ne peuvent pas écouter du Lashon Hara. Ce qui s'est passé au moment, écoutez bien ce qu'il a dit, ce qui s'est passé au moment où tu étais dans cette pièce, c'est que, à l'instant dans lequel tes oreilles se sont bloquées, les gens étaient en train de dire du Lashon Hara. Et naturellement, tes oreilles ont fait blocage. Fais blocage. Le temps du Lashon Hara. Dès que le Lashon Hara s'est arrêté, tes oreilles se sont rouvertes. Comme ça, il lui a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ça veut dire que c'est pas un tzadik, hein, c'est un chassid.
Bah, c'est une image, mais c'est pas...
Non, c'est pas une image. Vraiment, ses oreilles sont dysfonctionnées.
Il y a une autre histoire, c'est qu'un gars avec salon, tellement il faisait Lashon Hara que chaque fois qu'il rentrait, il faisait Lashon
Hara. Oui, monsieur Benita, il y a des gens aussi, c'est un automatisme pour raconter des bêtises. Dès qu'il y a une bêtise à dire, il ne peut pas se retenir, il doit la sortir. C'est un grand niveau. C'est un grand niveau. Il y a des gens comme ça. Il a une bêtise, il faut qu'il la sorte. Donc.
On parle de Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov.
Oui.
Que chacun avait son Dieu. C'est pas Eloi Abraham, c'est Eloi Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Yaakov.
Chacun a
des façons de servir.
Voilà, la façon de servir.
Pourquoi on dit pas aussi Eloi David, Eloi Moshe, Eloi Machin?
Parce qu'il n'y a que trois à vote.
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que les patriarches, c'est les couleurs de base. Les autres, c'est des mélanges. Tu n'as que trois couleurs de base.
Primaire.
C'est expliqué, ce que j'ai dit, c'est pas de moi. Hein. Le Morazaka explique ça dans les Goûts de Torah.
Si, le jeu vert.
Il dit que les avot, il n'y en a que trois.
Mais non, le vert, pas du tout.
Il dit c'est pour ça.
Mais non, bleu, jaune.
Il dit un point important. Il dit c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle chaque personne d'Am Israël, pour répondre à la question, je répète la question d'Abraham pour ceux qui n'ont pas entendu. Il dit on a parlé d'Abraham, Israël et Yaakov. Comment ça se fait que chaque juif, il dit, Elokeinu veloke, je vais un peu modifier ta question. Il dit Elokeinu veloke avotenu, notre Dieu est le Dieu de nos pères. Et on cite Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que qui c'est mes pères? J'ai pas un père, j'ai trois pères. Trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'abord, pourquoi on dit trois dieux? Et Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov. Alors en fait, alors, la Gemara Zaken explique, alors que par exemple, pour les tribus, peut-être que je me sens plus la tribu de Reuven, pas la tribu de Shimon, pas la tribu de Lévi. Dans les tribus, on n'est pas forcément associé à toutes les tribus. Alors que pour les patriarches, on est chacun associé à tous les patriarches. L'Admor Hazaken dans Parashat Vaera, dans l'écouté Torah, il répond à ça. Il dit qu'en vérité, les patriarches, c'est les couleurs de base. Enfin, c'est comme les couleurs de base. Ça veut dire que chacun de nous a un petit peu d'Abraham, un petit peu d'Yitzhak, un petit peu de Yaakov. Seulement, ce qui fait la différence entre chacun de nous, c'est le dosage. Et justement, à partir de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, David, etc., c'est des gens qui ont un dosage différent des trois midot primaires de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la bonté, la rigueur et l'harmonie. C'est un dosage différent. C'est pour ça que chacun de nous est lié directement aux trois patriarches. Pas un des trois, aux trois patriarches. Voilà. Donc pour nous dire à quel point les trois patriarches sont quelque chose qui est lié intrinsèquement à nous. Ah, voilà, j'ai de l'heure.
Hein? Oui, mais quand on fait une requête ou une doléance, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham.
C'est la question.
Donc il y a aussi Dieu là-dedans.
Parce que il y a trois façons de voir Dieu. Il y a trois approches. L'approche d'Abraham, l'approche de Yitzhak, l'approche de Jacob. Et chacun de nous a ces trois approches.
Ah d'accord. Donc, mais dans chaque approche, il y a Dieu dedans.
Bien sûr. Ah, okay. C'est trois façons de voir Dieu. Il y en a un qui voit Dieu par les yeux de la bonté, l'autre qui voit Dieu par l'approche de la rigueur. Et l'autre qui voit Dieu par l'approche de l'harmonie. Mais trois approches différentes.
L'harmonie n'étant pas déjà une composante, une synthèse de la rigueur et de la...
Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même... L'harmonie, c'est la capacité d'harmoniser. T'as une capacité de faire du bien, une capacité de faire de la rigueur, donc d'être rigoureux, et une capacité d'harmoniser.
Oui, mais là, il n'y a pas d'harmonie, là. On ne peut pas parler d'harmonie. Si, parce que si on parle d'harmonie, ça veut dire que les trois conditions... Elles sont harmonieuses entre elles.
Non.
Or là, il y a des degrés entre les unes et les autres. Donc,
Monsieur Benita, chacun de nous qui est autour de cette pièce, qui est autour de cette table, là, cette pièce, il va forcément exceller dans un des trois domaines. On a tous un peu de bonté, un peu de rigueur, un peu d'harmonie. Mm-hmm. Il y a des gens que leur force, leur grande force, c'est que c'est des gens harmonieux. C'est des gens stables. Il y a des gens que leur grande force, c'est la bonté. Ils sont pas vraiment stables, mais c'est des gens qui sont très très bons. Il y a des gens qui sont pas forcément harmonieux, qui sont pas forcément bons, mais ils sont rigoureux. Ça veut dire que quand ils décident quelque chose, ils ont la rigueur. Chacun de nous excelle dans un de ces trois domaines, bien que nous avons ces trois qualités. Juste, c'est un dosage différent.
Et après, on peut les améliorer.
Les qualités de la Neshama, toutes les Neshama. Oui, c'est vraiment
la Neshama. La Neshama d'Abraham, elle vient de la Gabarit.
Oui, mais c'était concentré. Concentré.
Tu peux l'appeler.
Parce que Adam ne les a pas exprimés.
Ah, il les avait sans les exprimer.
Ben Adam, c'est la source.
On peut avoir une Neshama et pas les
Adam. Non, mais Adam, il n'a pas exprimé la bonté, la rigueur, l'harmonie. Il n'a pas exprimé ça.
Pourquoi il a dormi?
Adam, c'est pas notre patriarche. Adam, si tu veux, c'est notre prototype. C'est pas le patriarche.
Adam Cagnol.
C'est pas compliqué.
Abraham, sa Neshama vient de Adam.
Oui.
Donc la source, c'est Adam.
Je te donne un exemple. Tu as un père. Oui. Et tu as aussi Adam Harishon. Quelle différence entre ton père et Adam Harishon? Pourquoi Adam Harishon, c'est pas ton père?
Mon père m'a pas donné ça.
Ton père, Monsieur Azagori.
Oui, il m'a pas donné ça. Il m'a donné ses gènes physiques.
Ah, j'ai compris. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre Monsieur Azagori et Adam Harishon?
Adam Harishon, c'est lui qui m'a donné la
Neshama. Non, t'as rien donné, Adam Harishon. Adam Harishon, t'as rien donné. Adam Harishon, c'est le premier homme. Donc tout a démarré de lui. Oui, d'accord, mais tout vient d'Adam Harishon, mais concrètement, toi, t'es pas lié directement à lui. T'es lié à lui par personne interposée.
Par exemple, c'est par affiliation qu'on est
lié. Bah, évidemment, bien sûr.
Ah, c'est pas mon père. Ben,
C'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père, oui, si tu veux.
Comme ton grand-père. On est lié à Abraham par rapport à Adam. La différence entre Adam et...
Adam Kadmon, tu mélanges peut-être avec Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est un niveau de Kabbalah, c'est un niveau de... C'est la source des Neshamot.
Ah, c'est ça que je parle.
C'est un niveau, ça.
Parce qu'Adam, en soi, il est aussi le... Enfin, d'une certaine manière, la source de tous les hommes, c'est Terre.
Oui.
Donc aussi des gens comme Abou Dazara.
Tout le monde.
Alors que Abraham, lui, il a, c'est le premier qui a reconnu Hachem.
Bah, pourquoi il n'y a pas de Rechaim chez nous aussi ?
Bien sûr, mais ils ont tous, malgré tout, le fait d'avoir Emouna.
Bah, oui, on sert ça de, c'est vrai. La Emouna, on l'a depuis Abraham.
Voilà, exactement. Il y a même ce détail.
Alors, dans les mots. Mais il est cacher, on continue, dans les mots.
Page 101.
Page 101. Non. 100. 100. On a encore 100. On va reprendre dans la ligne qui commence chez Kol Yavé. On n'a pas fait beaucoup dans les mots aujourd'hui. Parce que ce chapitre, comme ça, un chapitre qui n'est pas simple, j'ai fait plusieurs introductions aujourd'hui qui nous aideront dans la suite. Chez Kol Yaméhem les Olam, les patriarches. D'accord ? Les patriarches qui sont Merkava. Toute leur vie. Les Olam. Loïf Sikwa Filusha Achat. Ils n'ont pas arrêté ne serait-ce qu'un seul instant. Mais les kasher datam venishmatam, d'attacher leur esprit et leur neshama, le ribon olamim, au maître de ce monde, bebitul anal yichudo itbarer, avec l'annulation qu'on a citée, les yichudo itbarer de l'unicité d'Akadosh Baruch. C'est exactement ce qu'on a expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit d'ici, comment l'Admor HaZaken montre clairement que la plus grande emouna, c'est une emouna qui est intégrée. Et ça, c'est l'effort qu'on doit faire. Faire un effort pour essayer d'intégrer notre émouna. Et c'est pour ça que plus jeune on apprend, mieux c'est. Regardez, quand on enseigne à nos enfants des mitzvot. Exactement. Bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut.
On va avoir un coup de pouce, on va pas avoir.
Notre coup de pouce, c'est à force tu vas le faire, ça va devenir inné. Mais déjà nos enfants. Il faut essayer, il faut pas hésiter. Non mais je suis sérieux. Il faut pas hésiter d'amener les enfants dès le plus jeune âge à la synagogue, de les habituer à faire des mitzvot, etc. Pour que ça devienne inné. Qu'un enfant, il sait, dès le plus jeune âge, il sait que le Shabbat, ma place, c'est à la synagogue. C'est pas que je dis, je vais l'amener à 13 ans, 14 ans, 15 ans, que là, bon, il va réfléchir, c'est pas simple. Il faut qu'un enfant soit inné dans sa tête, que le Shabbat, ma place, c'est à la synagogue. Il faut rendre ça inné. On a ça dans nos gènes, dans la Emouna. Mais le problème, c'est que si on l'extériorise pas, et ben, malheureusement, ça reste superficiel. Et si quand ça reste superficiel, on peut être juif croyant qui travaille Shabbat. C'est pour citer l'exemple du Shabbat. Okay. Alors, ce que dit c'est le Morazaken. Dit va haré maintenant après les. Alors d'accord. Bon maintenant il y a eu le patriarche. C'est bien beau. Et comme a dit Michel, les patriarches, c'est une belle époque. Mais bon, nous on a des années de lumière.
Ils ont une chance extraordinaire.
Après les patriarches, qui a suivi? Va haré mais après eux. Kol anevim, tous les prophètes. Kol echad, chacun. Kefi, lefi, madrigat, ishmato, vasagato. Chacun selon son niveau. On a eu des grands prophètes, on a eu des petits prophètes. Le plus grand prophète qu'on ait connu, c'est qui?
Moïse.
Ou Madrigat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Iyaola Al-Kulana. Le plus grand des prophètes qu'on ait connu, c'est Moïse. Pourquoi? Chez Amrou Alav, qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Shrina Medaberet, Mitor Grono Shel Moshe. On dit que la Shrina parlait de sa gorge. Vous savez, on retrouve ça dans le Kriyat Shema. La deuxième partie du schéma qu'on va tous lire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit? C'est Moïse qui parle. C'est la paracha Vaetranan. Il dit, si vous allez écouter mes mitzvot, que je vous ordonne, je donnerai la pluie de vos champs en son temps. Qui c'est qui parle? C'est Moïse. D'accord. Si vous écoutez mes lois, je vous donnerai.
Mais c'est Dieu qui devrait dire ça.
Exactement. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un tel niveau que la Shrina parlait par sa gorge. Ça veut dire qu'il est arrivé à un tel niveau que son corps disait ce que Dieu avait à dire. Donc du coup. Non, mais sérieusement, ça veut dire que du coup, Moshe Rabbeinu est arrivé au niveau de Merkava. Ça veut dire que son corps, sa gorge, exprimait ce que Dieu disait. C'est pas que Dieu lui dit un message. D'accord? Je le travaille. D'accord? Je le travaille, il transite par moi, je traite le signal, et je le passe. Non. C'est automatique. Parce que si Dieu me parle, et il me dit, si vous écoutez mes lois, et que moi je traite le signal, et que je le retransmets, je dis, bon, si vous écoutez les lois de Dieu, parce que je retransmets. Mais Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de délai de traitement, c'est automatique. Ça vient, c'est un conduit.
C'est
C'est-à-dire que c'est l'eau-parleur.
Ça veut dire que c'est automatique.
C'est direct.
C'est l'eau-parleur de Dieu. C'est l'esprit. Mais ça, c'est exactement comme les patriarches. Pour ça, c'est exactement comme le patriarche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'automatisme. C'est pas que il me parle, je répète. Non. Il me parle, ça parle. C'est tout. Point barre. Moi, cher Benoît, t'es à ce niveau-là.
C'est un porte-voix. Alors, par rapport à tout à l'heure, il y a Abraham, Israël, qui a compris pas le Dieu de...
Eh ben, c'est la même chose. Alors, je vais aller beaucoup plus loin que ça maintenant. On dit comme ça. On dit, la Gemara, elle dit... C'est le Zohar qui dit ça. Le Zohar, il commente, c'est quelque chose qui est écrit dans le Talmud d'Yerushalmi. Dans le Talmud d'Yerushalmi, c'est écrit, Va Hashem Bechal Kocho. Va Hashem Bechal Kocho, c'est écrit que Kadosh Baruch se trouve dans son trône. Et on dit que lorsque Kadosh Baruch se trouve dans son trône, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On dit, c'est qui Dieu dans son trône? Dar Rabbi Yitzhak Barabil Azar Bektishta de Kesarin. C'est Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi El Azar, de la synagogue de Kesarin. Ça veut dire, je répète, il y a un passouk dans Tehilim qui dit Dieu est dans son trône. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, c'est qui Dieu dans son trône? C'est Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Elazar, dans sa synagogue. On va, attendez, dans le Zohar. Le Zohar, il va plus loin que ça. Il dit, Man Pene Adon Hashem, qui est la face de Dieu, la face du maître Dieu, Ta Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment tu peux dire ça? Comment on peut parler de choses comme ça? Comment on peut dire qu'un rabbi, qu'un tzaddik, c'est Dieu? Vous comprenez ma question? Comment on peut dire qu'un tzaddik, c'est Dieu? Et on a beaucoup d'expressions comme ça, dans le Zohar.
Dieu, là.
Ah bah oui, c'est très grave de parler comme ça. C'est pas de chez nous, ça. De dire qu'un homme est Dieu. C'est pas possible.
Non, c'est les cousins. C'est les cousins.
Hein? Comment c'est possible? Et pourtant, c'est le Zohar. Ce que je vous dis, c'est documenté, hein. C'est que le Zohar te dit, il dit, c'est qui Rabbi Chia qui parle? Il dit, c'est qui la face de Dieu? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et même dans le Talmud de Jérusalem, comment c'est possible? La réponse est très simple. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai était arrivé à un tel niveau que son corps ne faisait plus écran à la présence de la Kadosh Baruch Hu. Donc du coup, tu voyais son visage, tu voyais Dieu. Moi, mon corps à moi, il fait écran à la lumière de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu me parle, Dieu éclaire en moi. Ensuite, moi, je dois traiter le signal et je le retransmets. Donc, il y a Dieu qui s'exprime en moi et tel que moi je l'exprime. Mais les tzadikim dans l'envergure de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Yitzhak Bar Abi El-Azhar qu'on a vu dans le Talmud de Jérusalem, ils étaient d'un tel niveau que leur corps ne fait que retransmettre ce que Dieu envoie. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement dans le Zohar, il dit « Ana simana be'alma ». En français, littéralement, ça se traduirait « Je ne suis qu'un signe ». Un signe, d'accord? Signe, ça
un
commence.
Signal.
Non, un signal. Un signe. Ça veut dire quoi un signe? Ça veut dire que je suis là seulement pour montrer comme un panneau qui va te montrer qu'il faut rouler à 50 km/h. Moi, je suis là pour amener la parole de Dieu. Je suis là pour ça. C'est pas comme moi. Enfin, moi, je suis là pour beaucoup de choses, aussi pour répéter la parole de Dieu. Non. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à ce niveau-là, au niveau de Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, au niveau des prophètes, au niveau de Moshe Rabbeinu, à un niveau dans lequel on dit que le tzadik représente la Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle, vous savez, une des grandes sources d'opposition qu'il y avait au chassidisme, parce que de certains textes du Baal Shem Tov, et d'autres textes encore plus explicites, Baal Shem Tov n'a pas écrit, mais bon, enfin, de ce qu'il disait, on pouvait comprendre qu'il apparentait le tzadik à Dieu. Et que les chassidim prenaient leur habit pour Dieu. Évidemment, ça fait tout de suite un scandale. Comment on peut prendre un habit pour Dieu? Ça passe pas.
Ça a été un petit peu...
Hein ah oui, bien sûr.
Hein, on est d'accord. Hein.
Celle-là. Hein, celle-là, c'est l'idole. Hein, voilà. Hein,
voilà.
C'est un jeu de mots en arabe. Alors. C'est l'idole, non, celle-là, là. Non, non. Elle connaît pas. Si, c'est on dit comme ça en arabe aussi.
Ah bon.
L'idole.
L'idole.
Hein,
celle-là.
Comment ça se fait? Parce qu'en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à un tel niveau. Il est arrivé à un tel niveau qui représente Akadosh Baruch Hu. Hein? Que quoi? Oui? Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Là, ce que tu dis, c'est que Dieu a créé l'homme à son image.
Je suis l'image.
Non. À son image, ça veut dire qu'il y a Dieu, il a créé à son image. Oui. Mais concrètement, l'homme forme un écran à la présence d'Akadosh Baruch Hu.
Tu vois une image?
Il y a un délai de traitement. C'est comme, tu sais, je sais pas si on pourrait donner un exemple en informatique. Je vais donner un exemple à voir avec un conduit. Si je prends de l'eau et je la fais passer par un tuyau, comme ça, un conduit, la même eau qui est rentrée ici, c'est la même eau qui sort ici. Elle n'a pas été traitée à rien du tout. Ça, c'est une eau qui est directe. C'est-à-dire que le tuyau ne fait que passer l'eau qui est là. Donc, du coup, on voit le tuyau, on dit c'est un tuyau d'eau, c'est terminé. Après, t'as un autre niveau. T'as un niveau dans lequel tu passes par un tuyau, mais le tuyau, il va travailler l'eau. Donc, du coup, l'eau qui sort, c'est vrai que c'est la même que celle qui est rentrée, mais c'est une eau qui a été filtrée, qui a été travaillée. En informatique, il y a beaucoup ça. D'accord? Vous avez la couche du microprocesseur, et après, vous avez plusieurs couches logicielles dessus. Et c'est des couches qui vont travailler le signal, etc., pour le mettre à votre portée. Par exemple, quand je prends mon iPhone et que je vais cliquer sur un bouton, il y a plusieurs couches logicielles qui vont traduire qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie sur un bouton, et tout ça, ça remonte jusqu'au processeur. C'est des choses qui sont... C'est-à-dire, il y a des couches, d'accord ? Il y a plusieurs couches qui font ça. Mais ça, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Moshe Rabbeinu, chez les patriarches...
Il n'y a pas les couches.
Il n'y a pas les couches. C'est direct. C'est automatique. D'ailleurs, plus que ça, on voit que, dans le Midrash, il est raconté que lorsque... il y a une sorte de discussion entre la Xéra d'Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Akadosh Baruch Hu envoie un décret, d'accord? Et Moshe Rabbeinu donne l'ordre à Aaron, il lui dit, écoute, il faut qu'on arrête ce décret. Il lui dit, tu vas arrêter l'ange de la mort avec, alors il lui dit comme ça, lui, tu attrapes l'ange de la mort et tu l'arrêtes. Alors, l'histoire raconte que lorsque Moshe Rabbeinu a dit ça à Aaron, il lui a dit, c'était après l'épidémie qu'il y avait avec les Kétorés et tout ça. Donc il lui a dit, attrape l'ange de la mort et tu vas l'arrêter. Et là-bas, le Midrash, le Zohar développe ça longuement, il dit que, à ce moment-là, l'ange de la mort, quand Aaron l'a arrêté, il a dit, mais laisse-moi faire mon travail. L'ange de la mort a dit.
Travail de Dieu.
Bah oui, c'est mon travail, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors, Aaron, il répond, il dit, mais c'est Moïse qui m'a envoyé, c'est Moshe qui m'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, c'est Moïse qui m'a envoyé pour t'arrêter. Alors l'autre, il répond, il dit, mais c'est Moïse. Il dit, mais moi, je viens de la part de Dieu, toi, tu viens de la part de Moïse. Alors, tu vas m'écouter. Donc là, c'est un dialogue, un débat qu'il y a entre l'ange de la mort et Aaron. Aaron qui stoppe l'ange de la mort, et l'ange de la mort qui dit, laisse-moi. Aaron qui dit, c'est Moïse qui m'a envoyé t'arrêter, donc je m'arrête, je t'arrête. Et l'ange de la mort qui dit, mais c'est Dieu qui m'envoie. Et qu'est-ce que répond sur ça Aaron, quand l'ange de la mort lui dit, mais toi, tu viens de la part de Moïse, moi, je viens de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, tout ce que Moïse dit, c'est ce que Dieu lui dit. Si tu ne crois pas, si tu n'es pas d'accord, dis, regarde, il est écrit, où Moshe el petach ou el moed, la Kadosh Baruch Hu se trouve à la porte du el moed. Alors dis, viens avec moi, on va aller ensemble, on va aller à la porte de la tente d'assignation, et on va voir ce que Dieu va dire. Et là, dès qu'ils arrivent à la porte de la tente d'assignation, c'est écrit, Vayashov Aaron el Moshe, Aaron est retourné vers Moshe, et là, Moshe a dit, la voix de Dieu, sans même savoir ce qui s'était passé, hein. Il a dit, oui, il faut sauver la vie des gens. Et là, il dit, tu vois, c'est une preuve qu'en vérité, quand Moïse y parle, qui c'est qui parle? C'est Dieu.
Bien que tous les...
Ça veut dire que tu entends la voix de Moïse, mais c'est Dieu qui parle. C'est très puissant, ce qu'on entend dire.
Pourquoi il envoie l'ange de la mort, alors?
Pourquoi
il envoie l'ange de la mort, alors?
Parce qu'il a prévu Moïse pour l'arrêter.
Non, mais c'est le chien qui mord sa queue.
Ouais. C'est la carotte et le bâton.
Il n'y
a que ça dans la vie.
Non, mais il a quand même bossé, l'ange de la mort.
Dieu, il envoie la punition, et il envoie la punition, et il envoie le tzaddik pour arrêter la punition. Voilà, et le tzaddik, il va prier. Et qui a envoyé la punition? C'est Dieu. Et qui c'est qui est le tzaddik qui va invoquer qui? Dieu. C'est la carotte et le bâton. C'est vieux comme le temps, ça. D'accord? Et donc ça, c'est la raison pour laquelle, donc on voit clairement comment on a donné plusieurs exemples aujourd'hui pour montrer que des tzadikim de l'envergure de Moshe Rabbeinu, etc., Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont arrivés à un tel niveau qu'ils ont intégré Dieu sur tous les aspects de leur être au point que c'est carrément inné, et on peut même dire, comme M. Benita a dit, carrément un automatisme. C'est un bitoul absolu à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le Zohar dit que l'annulation absolue, encore plus puissante que celle de Moïse, encore plus puissante que celle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'annulation la plus puissante qu'il y aura, sera l'annulation qu'il y aura chez Moshe Rabbeinu. Chez Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Vezeshmo Asher Ikriulo Hashem Titkenu. Ah, ça c'est extraordinaire. Comment on appelle Mashiach? On appelle Mashiach Titkenu. D'accord? Mashiach, notre juste. En vérité, le Zohar, il dit là-bas, hein, qu'il ramène un passage de Irmia, il ramène un passage de Jérémie, et Jérémie, là-bas, quand il parle de Mashiach, il dit qu'on dira son nom, on dira Dieu notre juste, alors que nous on l'appelle Mashiach notre juste. Ça veut dire que Mashiach, il sera à un tel niveau qu'on l'appellera Dieu, directement, pas de temps en temps, parfois, etc. Quand on voudra appeler Mashiach, on l'appellera Monsieur Dieu. C'est-à-dire tellement il sera annulé à Kadosh Baruch Hu, pas du tout, c'est que tellement il sera annulé, que ce sera évident pour tout le monde que tu parles à Dieu, que c'est Dieu qui te parle et que quand tu lui parles, tu parles à Dieu.
faut faire très attention à ce qui se passe avec les chrétiens.
Exactement. Alors, voilà.
C'est grand danger.
Vous avez compris. Mais bien sûr. Et d'où vous croyez qu'ils ont pompé?
Bien sûr.
Évidemment. C'est de Jérémie. Pourquoi vous croyez qu'ils n'arrêtent pas de citer Jérémie et Isaïe et tout ça? Parce que c'est écrit. C'est écrit chez nous. Quoi? Ah, mais c'est des grands connaisseurs de la Bible.
Hein. Très grands.
Très grands connaisseurs.
Grand et jeune, hein. Oui, bien sûr.
Voilà. Tout est là.
On a fait qu'à l'époque du Machiav, on pourra montrer le bout du doigt.
Oui. Tu pourras montrer Machiav, j'ai dit c'est Dieu. Ça fait peur. Hein. Alors on dit.
Que Jean-Claude, ils ont copié. Ils sont inspirés de.
Mais évidemment.
Sans arrêt.
Ah oui, parce qu'il dit c'est les. Ouais.
Non,
mais attends, par exemple, je t'expliquais. Eux, ils disent qu'ils ont un Nouveau Testament. C'est écrit dans Jérémie. C'est écrit, Dieu, il dit, lorsque Mashiach sera là, je vais vous donner une nouvelle Torah. Bon, le rabbin dit, c'est pas une nouvelle Torah, c'est une Torah qui aura tellement de chidushim qu'on aura l'impression qu'elle sera nouvelle. Eux, ils ont compris ça au mot. Ils ont une nouvelle Torah. Ils disent, voilà, c'est nous, le Nouveau Testament.
Mais c'est de là qu'ils sont inspirés aussi du Nouveau Testament.
Mais c'est pas, c'est que de là. Eux, ils sont inspirés que de chez nous. Que de là.
Oui, c'est un simple décalcage.
Mais ben évidemment. Pour eux, ils disent que c'est le Messie.
On n'a pas vu le droit d'auteur.
Ils disent c'est le Messie, hein. On a vu le droit d'auteur. Ouais.
C'est dommage.
Encore.
On n'a pas vu la couleur.
De quoi? C'est écrit, le Rambam, il dit que Mashiach, il va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Il dit clairement dans Hilchot Melachim. Il dit que Mashiach, il va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu.
Oui, mais ça, il y a Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il est parti à
discuter. Mais comment tu peux...
Il s'est dit, j'apprends des choses.
Oui, il va enseigner tout le monde.
Moshe Rabbeinu a des choses à apprendre, c'est logique, je ne sais pas. Mais je parle d'un point de vue...
Jean-Claude, je n'ai pas cité...
On dit, l'Okam Navi, autrement,
c'est
découvert, c'est une vérité absolue. Jamais il y aura, même le Mashiach sera plus grand Navi que Moshe.
Navi. Navi. L'aspect Navi.
Mais l'aspect Navi, c'est quoi? C'est Victor Bruno, c'est ça?
Non. L'aspect Navi, c'est l'aspect Navi. C'est être capable de prophétiser en restant normal, etc.
Il n'y a plus d'avenir à plus Moshe.
Quoi?
Parce qu'il n'y a plus d'avenir à plus
Moshe. C'est le top, c'est le summum. Alors, on va terminer avec ça. C'est la raison pour... C'est le futur. C'est un futur éternel.
C'est le futur lui-même.
Exactement. Azak, belle définition. Le futur lui-même. Alors, en fait, pour les connaisseurs, Avraham, il y a une Gemara Baba Batra. Gemara Baba Batra, page 75. La Gemara, elle dit, Atidim tzadikim sheikaru bishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Les gens, des fois, ils lisent mal cette Gemara. Atidim tzadikim sheikreu bishmo. Mais c'est écrit sheikaru. Ça veut dire comme ça, que les tzadikim seront appelés par le nom de Dieu. C'est la Gemara Baba Batra, page 75. Qui réclame la Gemara?
Ils seront nommés.
Ça veut dire que, on les appellera Dieu. Alors on aura... Ça m'a les gens, des fois ils lisent mal cette Gemara, Atinim Tzadikim Shei Kreu Bishmo, mais ça c'est déjà aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est pas aujourd'hui. Mais par exemple, on voit, il y avait un commentaire du rabbi dans lequel il dit clairement, il dit qu'il parlait de son beau-père, rabbi précédent, et il dit qu'un rabbi, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu habillé dans un corps. Ça avait fait un tollé quand il avait écrit ce commentaire. Un tollé. Mais même des rabbinim qui ont dit, mais comment on peut dire ça? Et c'est pas de chez nous. Et c'est d'ivrek fira, c'est des mensonges, etc. Mais quand on lit les textes, on voit, Gmara, Zohar, tout est là. Ça veut dire que un tzadik peut arriver à un tel niveau que son corps ne ferme plus un écran. Donc du coup, c'est Dieu. Et en vérité, nous sommes tous Dieu. Seulement, le tzadik, il a un tel niveau que tu vois Dieu en lui.
Alors on aura combien de dieux alors dans
ça c'est le niveau. Ça c'est le niveau d'une personne. Hein.
Il va y avoir la pagaille là. Hein, avec tous ces dieux.
Oui, ça ne change pas.
Non, ça ne change pas.
Les termes qu'il a dit, c'est qu'un tzadik, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu habillé dans un corps. Mais ça, c'est sûr, c'est pas Dieu. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est qu'on a eu des prototypes. Maintenant, pour répondre à la question de Michael, on n'est pas à ce niveau-là. Bien sûr qu'on n'est pas à ce niveau-là encore.
Comment on va faire?
Mais on va expliquer.
On a sorti que des Formule 1.
Alors justement, c'est vrai que j'ai sorti que des Formule 1. Pour l'instant, on a donné des prototypes. Des prototypes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les prophètes, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, les tzadikim, etc. Des tzadikim qu'on a dit qu'ils sont à un tel niveau qu'ils ont intégré leur Emouna de façon à ce qu'elle est innée en eux. C'est carrément un réflexe. Ça, c'est un niveau d'une personne que sa émouna n'est pas superficielle, sa émouna va être extériorisée, sa émouna est profonde. Seulement. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Alors, comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Alors, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, Bezrat Hashem, va expliquer que d'abord il fut un temps dans lequel on était à ce niveau-là. On va expliquer longuement ce qui s'est passé au don de la Torah. Au don de la Torah, chacun de nous était comme ça. Et en fait, la clé de la réponse, c'est qu'il faut essayer de se poser la question comment on s'est préparé au don de la Torah et comment on a pu arriver à ce niveau-là. Parce que il est écrit clairement qu'au don de la Torah, on était tous à ce niveau-là. Au niveau que la Torah, enfin en tout cas, la présence divine était intégrée en nous. Alors comment on y a fait? Comment on y est arrivé? Donc en fait, on va devoir décortiquer ce qui s'est passé au don de la Torah et surtout avant le don de la Torah. Et quand on comprendra ça, pardon, on comprendra automatiquement comment nous aussi, on peut arriver à être comme ça, ne serait-ce que pour certains moments de notre vie, de notre journée. Intégrer la Emouna au point qu'elle soit innée, elle soit innée en nous, de façon à ce que j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Voilà, ça s'arrête là pour aujourd'hui.
Adam Kanyev, c'est le bon mot quand même.
Après, ça m'en charge.
Bien sûr, mais
il y a plus de suite.